Section 3, la réforme sanitaire et le message du troisième ange. Ce que la main est au corps. 97. Le 10 décembre 1871, il m'a été à nouveau montré que la réforme sanitaire fait partie intégrante de la grande œuvre grâce à laquelle le peuple de Dieu sera prêt pour la venue du Seigneur. Elle est au message du troisième ange ce que la main est au corps. L'homme a fait peu de cas du décalogue, mais le Seigneur ne punira pas les transgresseurs de cette loi sans leur avoir au préalable envoyé un message d'avertissement. Le troisième ange proclame ce message. Si les hommes avaient toujours obéi au décalogue, accordant leur vie aux principes qui y sont contenus, la malédiction de la maladie n'aurait pas inondé le monde comme elle le fait aujourd'hui. Préparer un peuple. Il est impossible que des hommes et des femmes violant la loi de la nature en s'adonnant à leurs appétits dépravés, et à leurs passions déréglées, sans violer également la loi de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur a permis que la lumière de la réforme sanitaire brillât sur nous, afin que nous puissions voir le péché que nous commettons en violant les lois qui régissent notre être tout entier. Nos joies ou nos souffrances dépendent de l'obéissance aux lois de la nature ou de leur transgression. Notre miséricordieux Père Céleste voit quelle est la condition déplorable des hommes qui, certains consciemment mais la plupart inconsciemment, vivent en violation des lois qu'il a établies. Aussi, par amour et par pitié pour la race humaine, il fait briller la lumière de la réforme sanitaire. Il publie sa loi et annonce le châtiment qui suivra la transgression afin que tous puissent apprendre à vivre en harmonie avec les lois de la nature. Il proclame sa loi si distinctement et la rend si évidente qu'elle est comme une ville située sur une montagne. Tous les êtres doués de responsabilité peuvent la comprendre s'ils le veulent. Les simples d'esprit ne seront pas tenus pour responsables. Annoncer clairement les lois de la santé et insister pour qu'on s'y conforme, telle est l'œuvre qui accompagne le message du troisième ange, afin de préparer un peuple qui soit prêt à accueillir le Seigneur quand il viendra sur les nuées des cieux. La défaite d'Adam et la victoire du Christ. Adam et Ève ont succombé à un appétit immodéré. Le Christ est venu et a résisté à la sévère tentation de Satan, remportant la victoire sur l'appétit, montrant que l'homme peut vaincre lui aussi. De même qu'Adam succomba à l'appétit, et perdit la bénédiction de l'Éden, de même les enfants d'Adam peuvent, par le Christ, vaincre l'appétit et retrouver le jardin d'Éden en pratiquant la tempérance en toutes choses. Auxiliaire pour permettre de discerner la vérité. L'ignorance n'est pas, actuellement, une excuse à la transgression de la loi. La lumière brille avec clarté, et personne n'est obligé d'être ignorant, car Dieu lui-même instruit l'homme. Tous sont liés à Dieu par l'obligation la plus sacrée de prendre garde à la saine philosophie et à l'expérience authentique qu'il met à leur disposition quant à la réforme sanitaire. Il souhaite que le vaste sujet de la réforme sanitaire soit discuté, et que le public soit vivement stimulé à l'étudier. Car il est impossible que des hommes et des femmes, rivés à toutes leurs habitudes déréglées, malsaines et énervantes pour le cerveau, puissent discerner la vérité sacrée par laquelle ils doivent être sanctifiés, affinés, ennoblis et préparés à figurer dans la société des anges célestes, dans le royaume de gloire. Sanctifie ou punis. L'apôtre Paul exhorte les membres d'Église, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Cela signifie que les êtres humains peuvent souiller leur corps par des complaisances coupables. Et s'ils deviennent impies, ils sont inaptes à être des adorateurs en esprit, et ne sont pas dignes du ciel. Si l'homme veut s'attacher à la lumière que Dieu, dans sa miséricorde, lui envoie en ce qui concerne la réforme sanitaire, il sera sanctifié par la vérité et préparé à entrer dans l'immortalité. Mais s'il dédaigne cette lumière, et vit en état de désobéissance à l'égard de la loi de la nature, il doit payer son forfait. L'œuvre d'Élie et de Jean-Baptiste, une préfiguration. 98. Pendant de longues années le Seigneur a dirigé l'attention de son peuple sur la réforme sanitaire, qui est un des éléments principaux dans l'œuvre de préparation pour le retour du Fils de l'homme. C'est avec l'esprit et la puissance d'Élie que Jean-Baptiste prépara le chemin au Seigneur et orienta le peuple vers la véritable sagesse. Il était le type de ceux qui vivront dans les derniers jours et qui recevront de Dieu la mission de présenter les vérités sacrées et de préparer la voie pour le second avènement du Christ. Jean était un réformateur. L'ange Gabriel, spécialement envoyé du ciel auprès du père et de la mère de Jean, leur fit une véritable leçon sur la réforme sanitaire. Il leur dit que leur fils ne boirait ni vin, ni boisson enivrante, et qu'il serait rempli du Saint-Esprit dès sa naissance. Jean évita de se faire des amis et de s'adonner aux voluptés de la vie. La simplicité de son vêtement, fait de poils de chameau, était un reproche permanent à l'égard des extravagances et du faste des prêtres juifs et du peuple en général. Son régime, composé de végétaux, de sauterelles et de miel sauvage, constituait une censure de la satisfaction des appétits et de la gourmandise qui prévalait partout. Le prophète Malachie déclare : « Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères. » Le prophète décrit la nature de cette œuvre. Ceux qui préparent le chemin pour le second avènement du Christ sont représentés par Élie, ce prophète fidèle, à l'image de Jean, qui vécut dans l'esprit d'Élie pour préparer la voie pour le premier avènement du Christ. Le grand sujet de la réforme doit être discuté, et l'esprit du public doit être remué. La tempérance en toutes choses doit devenir partie intégrante du message, en vue de détourner le peuple de Dieu de son idolâtrie, de sa gloutonnerie, et de ses extravagances vestimentaires et autres. Un contraste frappant. L'esprit de renoncement, l'humilité et la tempérance exigées des justes, que Dieu dirige et bénit d'une manière spéciale, doivent être manifestés au public en contraste avec les habitudes extravagantes et malsaines de ceux qui vivent en cette époque dégénérée. Dieu a montré que la réforme sanitaire est aussi fermement liée au message du troisième ange que la main l'est au corps. On ne trouve nulle part ailleurs de cause aussi évidente de dégénérescence physique et morale que dans la négligence en cette matière si importante. Ceux qui cèdent à la gourmandise et à la passion, et qui ferment les yeux à la lumière par crainte de découvrir des négligences perverses qu'ils ne seront pas disposés à abandonner, se rendent coupables devant Dieu. Quiconque se détourne de la lumière dans un domaine durcit son cœur pour rejeter la lumière en d'autres domaines. Quiconque manque à ses obligations morales en matière de régime alimentaire et d'habillement, prépare la voie à la transgression des ordres de Dieu au sujet des intérêts éternels. Le peuple que Dieu conduit est un peuple particulier. Ses membres ne se conforment pas au monde. S'ils obéissent aux directives de Dieu, ils accompliront ses desseins et abandonneront leur volonté à la sienne. Le Christ habitera dans leur cœur. Le temple de Dieu sera saint. Or, a dit l'apôtre, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Dieu ne demande pas à ses enfants de renoncer à eux-mêmes pour qu'il en résulte une atteinte à leur force physique. Au contraire, il leur demande d'obéir à la loi de la nature en vue de préserver leur santé physique. Il leur désigne la voie de la nature, et elle est suffisamment large pour n'importe quel chrétien. D'une main généreuse, Dieu a prodigué ses nombreux et riches bienfaits pour notre subsistance et notre joie. Mais en vue de nous doter d'un appétit normal, qui contribuera à préserver notre santé et prolonger notre vie, il met une barrière à cet appétit. Il nous dit : attention, restreignez-vous, gardez-vous d'avoir un appétit anormal. Lorsque nous développons un appétit perverti, nous transgressons les lois de notre être et assumons la responsabilité des abus corporels qui en résultent et de l'apparition de la maladie. Donner à l'œuvre en faveur de la santé sa vraie place. 99. L'indifférence manifestée par beaucoup à l'égard des livres traitant de la santé est une offense à Dieu. Ce n'est pas conforme à la volonté de Dieu que de séparer l'œuvre en faveur de la santé du grand corps de l'œuvre en général. La vérité présente se trouve tout autant dans l'œuvre de la réforme sanitaire que dans les autres branches de l'œuvre évangélique. Aucune branche, séparée des autres, ne peut former à elle seule un tout complet. L'évangile de la santé compte des avocats capables, mais leur travail a été rendu très difficile du fait que beaucoup de pasteurs, de présidents de fédérations, et de personnes occupant des postes importants, ont négligé de donner une attention suffisante à la question de la réforme sanitaire. Ils n'ont pas reconnu quel était au message ce qu'est le bras droit au corps. Bien que très peu d'intérêt ait été manifesté à ce département par beaucoup de membres et par certains pasteurs, le Seigneur lui a manifesté ses faveurs en le faisant abondamment prospérer. Bien dirigé, l'œuvre de santé est comme un coin d'entrée ouvrant vers le cœur la voie à d'autres vérités. Lorsque le message du troisième ange est reçu dans sa plénitude, la réforme sanitaire trouve une place dans les sessions du comité de fédération, dans l'activité des églises, dans les familles, à table et dans tous les compartiments de la vie domestique. De cette façon, le bras droit peut servir et protéger le corps. Mais si l'œuvre en faveur de la santé occupe sa place dans la proclamation du message du troisième ange, ses avocats ne doivent en aucun cas agir pour lui permettre de se substituer au message lui-même. Besoin de maîtrise de soi. 100. L'un des plus déplorables effets du péché originel fut de faire perdre à l'homme la maîtrise de soi-même. On ne peut progresser réellement que si cette maîtrise est reconquise. Le corps est le seul intermédiaire pour élever l'âme et former le caractère. De là les tentatives de Satan pour affaiblir et dégrader nos forces physiques. Son succès dans ce domaine lui assure la possession de notre être tout entier. Si une puissance supérieure ne maîtrise nos penchants, il causera sûrement notre perte. Le corps doit être contrôlé par les plus nobles énergies de notre être. Soumise à Dieu, notre volonté maîtrisera nos passions. La raison, sanctifiée par la grâce divine, dirigera notre vie. Il faut que nous ayons conscience des exigences de Dieu. Il faut que mes femmes comprennent leur devoir d'être pures, de se dominer, de s'affranchir de tout appétit dépravé et de toute mauvaise habitude. Toutes nos énergies, morales et physiques, sont un don du ciel et doivent être mises à son service. Pasteurs et membres doivent agir de concert. 101. Une part importante de l'œuvre des pasteurs consiste à présenter fidèlement aux membres les principes de la réforme sanitaire, car ils sont en corrélation avec le message du troisième ange, comme faisant partie de la même œuvre. Ils ne devraient pas manquer d'adopter cette réforme même et inciter à s'y rallier ceux qui professent croire à la vérité. 102. Il m'a été montré que la réforme sanitaire constitue une partie du message du troisième ange, auquel elle est aussi étroitement rattachée que ne le sont la main et le bras au corps humain. J'ai vu que notre dénomination devait progresser dans cette œuvre importante. Prédicateurs et membres doivent agir de concert. Les enfants de Dieu ne sont pas préparés pour le grand cri du troisième ange. Quant à eux-mêmes personnellement, ils ont à réaliser un travail qu'ils ne doivent pas laisser à Dieu, qui leur a confié cette tâche d'une manière précise. C'est une œuvre individuelle, une personne ne peut l'accomplir pour une autre. Une partie du message, non le message tout entier. 103. La réforme sanitaire est étroitement rattachée à l'œuvre du troisième message, cependant elle ne constitue pas tout ce message. Nos prédicateurs devraient enseigner les principes de la réforme sanitaire, mais sans en faire le thème principal de leur prédication, au lieu du message. Sa place se trouve parmi les sujets qui exposent l'œuvre préparatoire à accomplir pour affronter les événements mis en relief dans le troisième message. Parmi ces sujets, elle est prépondérante. Nous devrions nous emparer de toute réforme avec zèle, en évitant toutefois de donner l'impression que nous sommes vacillants et portés au fanatisme. 104. La réforme sanitaire est aussi intimement liée au message du troisième ange que le bras l'est au corps. Mais le bras ne peut prendre la place du corps. Proclamer le message du troisième ange, c'est-à-dire les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus, voilà ce que nous avons à faire. Le message doit être proclamé d'une voix forte et doit faire le tour de la terre. Les principes de la réforme sanitaire doivent être présentés en même temps que ce message, mais ne doivent en aucun cas en être indépendants, ou prendre sa place. Ses rapports avec les institutions médicales. 105. Les institutions médicales qui sont établies doivent être étroitement et inséparablement unies à l'Évangile. Le Seigneur a donné des instructions pour la proclamation de l'Évangile. Et l'Évangile comprend la réforme sanitaire sous tous ses aspects. Notre devoir est d'éclairer le monde, qui est aveugle en ce qui concerne les événements qui se préparent et qui ouvrent le chemin aux plaies que Dieu laissera fondre sur la terre. Les fidèles sentinelles de Dieu doivent donner l'alarme. La réforme sanitaire doit se trouver en bonne place dans la proclamation du message du troisième ange. Ces principes se trouvent dans la parole de Dieu. L'évangile de la santé doit être adjoint au ministère de la parole. Il entre dans les desseins de Dieu que l'influence bienfaisante de la réforme sanitaire fasse partie du dernier grand effort en vue de la proclamation du message de l'évangile. Nos médecins doivent être les ouvriers de Dieu. Leurs talents doivent avoir été sanctifiés et transformés par la grâce du Christ. Leur influence doit être unie à l'évangile qui doit être annoncé au monde. En parfaite et complète unité avec le ministère de l'Évangile, l'œuvre de la réforme sanitaire doit révéler que sa puissance lui vient de Dieu. Sous l'influence de l'Évangile, de grandes réformes s'accompliront par le moyen de l'œuvre médicale missionnaire. Mais que l'on sépare cette œuvre de l'Évangile, et le résultat en sera boiteux. 106. Nos institutions médicales et nos églises doivent atteindre un très haut niveau de sanctification. La réforme sanitaire doit être enseignée et mise en pratique par nos membres. Le Seigneur demande une remise en vigueur des principes de cette réforme. Les adventistes du septième jour ont, en tant que messagers, une œuvre spéciale à accomplir en faveur des âmes et des corps. Le Christ a dit à son peuple, « Vous êtes la lumière du monde. Nous sommes le peuple que Dieu a désigné pour proclamer les vérités d'origine céleste. » L'œuvre la plus solennelle et la plus sacrée qui ait jamais été confiée à des mortels est la proclamation du message des premiers, deuxième et troisième anges à notre monde. Dans nos grandes villes, il devrait y avoir des institutions médicales pour prendre soin des malades et diffuser les grands principes de la réforme sanitaire. Un coin d'entrée. 107. Il m'a été révélé que nous ne devons pas retarder l'accomplissement de l'œuvre qui doit être réalisée en matière de réforme sanitaire. Par cette œuvre, nous atteignons les âmes, et sur les grandes avenues, et dans les sentiers. 108. Je peux voir dans les desseins de Dieu que l'œuvre médicale missionnaire doit être le grand coin d'entrée grâce auquel l'âme malade peut être atteinte, traitée. Faire tomber les préjugés par une influence accrue. 109. Bien des préjugés qui empêchent la vérité du message du troisième ange d'atteindre le cœur des gens tomberaient si l'on prêtait une plus grande attention à la réforme sanitaire. Dès que les personnes s'intéressent à ce sujet, la voie est ouverte pour d'autres vérités. Si elles constatent que nous sommes informés sur le problème de la santé, elles seront mieux préparées à nous faire confiance lorsque nous parlerons des vérités bibliques. Cette branche de l'œuvre du Seigneur n'a pas reçu l'attention à laquelle elle avait droit, et à cause de cette négligence, on a beaucoup perdu. Si l'Église s'intéressait davantage aux réformes par lesquelles Dieu lui-même s'efforce de la préparer en vue du retour du Seigneur, son influence serait beaucoup plus grande. Dieu a parlé à son peuple, et il désire que son peuple entende sa voix et lui obéisse. Bien que la réforme sanitaire ne soit pas le message du troisième ange, elle lui est étroitement associée. Ceux qui proclament le message doivent aussi prêcher la réforme sanitaire. C'est un sujet que nous devons comprendre pour être prêts pour les événements qui sont imminents. Il faut donc que nous lui réservions une place importante. Satan et ses anges s'efforcent d'enrayer cette œuvre de réforme, et il n'épargne aucun moyen pour embarrasser et déprimer ceux qui s'en occupent de tout leur cœur. Néanmoins, que nul ne se laisse aller au découragement, ou ne se relâche dans ses efforts à cause des obstacles. Le prophète Ésaïe dit au sujet d'un des aspects du caractère du Christ, Il ne se découragera point et ne se relâchera point, jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre. Que ses disciples ne parlent donc pas de leurs échecs, ni de découragement, mais qu'ils se souviennent du prix qui a été versé pour sauver l'homme, afin qu'il ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. 110. L'œuvre de la réforme sanitaire est le moyen dont Dieu se sert pour diminuer la souffrance dans le monde et pour purifier son Église. Montrer à chacun qu'il peut devenir l'auxiliaire de Dieu en coopérant avec lui en vue de restaurer la santé physique et spirituelle. Cette œuvre porte l'empreinte du ciel. Elle ouvrira la voie à d'autres vérités précieuses. Quiconque veut travailler d'une manière intelligente peut y trouver sa place. Voir Medical Ministry, section 2, le plan divin dans l'œuvre médicale missionnaire, et la section 13, l'œuvre médicale missionnaire et le ministère évangélique.